Bonjour à tous, à chacun et à chacune. Voilà, je vais parler un petit peu plus fort alors. Ça y est ? C'est bien. Je suis diacre permanent du diocèse du Mans, père de famille de 8 enfants. J'ai des responsabilités sur le plan... Enfin, je suis diacre permanent donc depuis 1994 et je suis kinésithérapeute, exerçant ma profession en cabinet privé. Et je suis aussi dans la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires, dont je suis co-coordinateur national avec le père Denis Lecomte. C'était Monseigneur Sentier qui, jusqu'à la dernière conférence épiscopale, était notre évêque tutélaire. Et maintenant, ça va être Monseigneur Dubost. Voilà. Alors, en tant que kinésithérapeute, je me suis bien entendu bien souvent intéressé et j'étais interpellé par la santé. Et comme croyant, je suis aussi interpellé par la question du salut, dont Monseigneur Santaine a parlé si précisément et avec beaucoup d'acuité et de pertinence. Or, il se trouve qu'effectivement, il y a la même étymologie entre santé et salut. D'où l'importance de bien distinguer quand même les plans, santé et salut. Quand on dit shalom, on dit la paix, mais c'est la paix de tout l'être, la paix physique, la paix personnelle, mais aussi la paix sociale. Donc, il faut essayer de bien distinguer. Et il nous faut distinguer selon deux axes sans cesse répétés par nos derniers papes, que ce soit Benoît XVI ou Jean-Paul II qui en a fait une encyclique, Fides et Ratio, foi et raison. Donc selon deux axes, celui de la foi et puis un autre axe, celui de la raison, de la rationalité. Pas une rationalité étroite, pas une rationalité qui nous permet de voir uniquement la matérialité des choses, mais une rationalité qui nous permet justement d'avoir une intelligence et une distanciation. Selon la foi aussi, qui nous permet de recevoir la révélation. Mais comme le disait Jean-Paul II, une foi sans raison peut devenir un peu évaporée et la raison sans la foi peut devenir desséchante. Alors, il nous faut revenir au principe. Monseigneur Santaine a terminé son intervention en parlant du principe et fondement selon saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels. In principio, ça nous dit quelque chose. C'est le premier mot en latin de la Genèse, in principio. En hébreu, c'est Bereshit, dans un commencement ou au commencement. C'est important de revenir toujours à la base, au commencement. C'est en même temps le commencement, et déjà, quand on dit qu'il y a un commencement, nous évacuons toutes les perspectives où nous croyons en un temps cyclique. Nous croyons que Dieu crée et crée par sa parole. Dans un commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, et souffle de Dieu planait sur les eaux. Dans ce principe, nous sommes toujours dans ce commencement. Il a été au commencement du monde, mais nous sommes toujours dans ce commencement. Et quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous rentrons dans un commencement de relation avec Dieu. Très important de dire que le monde, notre existence, a un sens. Il a un début et il a une finalité. La finalité, précisément, saint Ignace le redit, c'est de rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. De tout notre être, de toute notre personne. Dans ce principe, Dieu crée le monde par sa parole et Dieu voit que le monde est beau. Donc nous nous inscrivons dans ce regard de Dieu qui nous donne un regard, si nous rentrons dans son regard, un regard de beauté, de vérité, de justesse et de bien. Cette beauté, est encore plus évidente quand il s'agit de l'homme et de la femme, puisque Dieu vit qu'ils étaient très beaux. Mais vous savez aussi que dans cette belle histoire, dans cette histoire d'amour, dans cette histoire de création de Dieu par sa parole, s'insinue un serpent. Et le serpent est le plus rusé de tous les animaux de la création. Or, c'est assez étonnant de voir combien ce serpent, aujourd'hui, est mis à l'honneur. Non seulement, si vous regardez les films en direction des enfants, il est question qu'Harry Potter entre dans une relation et un regard de complaisance avec le serpent. Si vous regardez aussi Eragon, je ne sais pas si vous connaissez Eragon, est-ce que vous avez enfants ou petits-enfants qui se sont intéressés à Eragon ? Il est question d'une relation avec un dragon, une dragonne. C'est assez curieux ces histoires-là. Et ainsi de suite, si vous voyez Le Dernier Templier, il est question aussi de toute une initiation progressive à lutter soi-même contre le dragon, les forces du mal, mais par soi-même, sans aucune aide, et certainement pas celle de Dieu. Vous avez aussi l'apprenti sorcier, etc. En tout cas, notre jeunesse est imbibée aujourd'hui de cette perspective de relation et de relation avec le dragon ou avec le serpent, comme étant le sommet de l'initiation. Il se trouve que dans les nouvelles thérapies également, nous avons comme une forme d'initiation qui serait l'accès à la connaissance suprême, la connaissance qui nous permettrait de deviner intuitivement ce qui serait le mal-être, le malaise, les tensions de la personne. Et là, j'ai été très interpellé par des collègues qui faisaient, par exemple, de l'ostéopathie et qui rentraient, après des études conséquentes et tout à fait intéressantes, tout à fait cliniques, tout à fait factuelles, où il faut un effort de compréhension de ce que sont les os, les articulations, de manière parfois très très fine, et donc une ostéopathie structurale qui nous vient d'une connaissance clinique et médicale avérée, et là, il n'y a rien à contester. Mais progressivement, des personnes rentrent dans une intuitivité de plus en plus grande, jusqu'à ne plus toucher la personne, et jusqu'à deviner ce qui serait à l'origine du malaise, du mal-être, des tensions, qu'elles soient physiques, qu'elle soit psychologique, existentielle, et le thérapeute révélant très rapidement l'origine de toutes les tensions et blessures. Dans nos milieux cathos, il y a des kinésiologues qui également, par des tests musculaires, vont rapidement dévoiler ce qui serait à l'origine de tensions, de blessures ou de difficultés. Alors, je ne parle pas, bien entendu, en ce qui concerne la kinésiologie, d'exercices qui peuvent être faits, qui peuvent apporter un bien-être dans une prise de conscience bilatéralisée, que ce soit le cross-gym, etc. Je parle des moyens diagnostiques. Et à cet endroit-là, je me dis, on s'éloigne d'une rationalité clinique, objectivable, pour rentrer dans un univers qui s'apparente plus à la médiumnité et parfois au magnétisme. Et là, attention, attention, clignotant. De même qu'il y a un certain nombre de techniques comme le Reiki qui nous invite progressivement à rentrer dans une initiation. Une initiation qu'il ne faut pas révéler sous peine de perdre l'efficacité du traitement. Initiation toujours en 3 degrés qui permettrait au maître Reiki de guérir jusqu'à distance. Donc, attention, encore une fois, quelques clignotants sont à examiner de très près. Alors, si vous voulez bien, on va les examiner à la lumière. Je suis kinésithérapeute, hein, je m'intéresse à la physiologie. Et si vous voulez bien, on va rentrer un petit peu dans cette compréhension de la physiologie du serpent. Ah, c'est très bien, là. Vous voyez, alors là, je suis bien protégé par cette peinture qui est au musée de Tessé au Mans. On va en reparler, on va en reparler. De cette... J'en dis un mot simplement hein, pour que vous sachiez qui est ce monsieur barbu, méditant. C'est Saint Jérôme, hein, le grand Saint Jérôme qui a traduit la Bible avec une connaissance transversale très importante de son temps. Hein. Il connaissait le latin, il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, il était en relation avec les rabbins de son temps et bien entendu les pères de l'Église. Et par conséquent, il a une méditation très profonde, ce Saint Jérôme, et nous y reviendrons. Parce que, alors que j'étais en train de travailler l'ostéopathie crânienne, Saint Jérôme m'a montré du doigt quelque chose de tout à fait important dont nous reparlerons. Voilà. Alors, essayons de comprendre un petit peu cette physiologie du serpent. Mais avant, je voudrais vous lire un petit passage d'Oswald Wirth. Oswald Wirth est un 33e degré de la franc-maçonnerie, très haut initié, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'imposition des mains » et où il dit un petit peu les règles du magnétisme et de la médiumnité avec les lames du tarot. Hein ? Vous voyez, tout ce dont je vous parle là, ce sont des rayons entiers aujourd'hui de librairies qui prennent de plus en plus d'expansion sur le rayon philosophie et sur le rayon religion. 30% de chiffre d'affaires chaque année en plus. Hein ? Donc, quand je vous parle de cette histoire-là, je vous parle d'un phénomène étonnant sur le plan contemporain. Hein ? Vous avez cette, le mentaliste. Hein ? Vous avez vu le mentaliste, là, sur... je crois TF1, hein, qui résout des énigmes aussi par intuition. Hein. Eh bien, c'est Oswald Wirth, 33e degré de la franc-maçonnerie, et qui est un grand référent dans l'occultisme et dans l'ésotérisme, va nous dire ceci. Le serpent séducteur qui incite à mordre aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise un instinct particulier. Non plus celui de la conservation, mais une impulsion à la fois plus noble et plus subtile, dont le propre est de faire éprouver à l'individu le besoin de s'élever dans l'échelle des êtres. Donc vous voyez, le serpent est tout à fait fréquentable pour accéder au plus haut niveau de l'initiation. Alors, nous allons essayer de voir et de comprendre un peu et très concrètement ce qu'est la physiologie du serpent. Parce que cette physiologie nous donne des clés essentielles par rapport aux nouvelles thérapies, certaines nouvelles thérapies. Hein, je ne voudrais pas les mettre tous dans le même plan. Hein, y en a qui peuvent être tout à fait intéressantes. Hein. Moi-même, je suis praticien de la méthode Mézières, je fais de l'ostéopathie, et vous voyez, voilà, on est dans une observation clinique. Voilà. Donc attention, mélangeons pas tout. Les quelques points que je vais vous donner, ce sont des critères de discernement. Alors, ce serpent est un animal qui n'a que l'horizontalité. Hein ? Il n'y a que les serpents assez évolués qui peuvent se redresser. Ils ont à ce moment-là des muscles sur le plan antérieur. Le serpent le plus basique, il n'a de muscles que postérieurs et n'a de vision du monde que l'horizontalité. Premier point, il ne peut pas lever le regard. Or, si vous voyez cette expression et cette formule de lever le regard, elle traverse toute l'histoire sainte. Elle traverse toute la Bible. Quelques exemples. 2. Abraham, quand il est prêt de sacrifier son fils, ayant levé le regard, a vu le bélier. Vous voyez, cette perspective de lever le regard est aussi ce qui arrive aux femmes quand le premier jour de la semaine, elles se demandaient entre elles qui roulera la pierre du tombeau, car elle était fort grande, et ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre avait été roulée en arrière. Vous voyez, donc, le serpent nous invite à ne voir que la matérialité du monde et ne peut pas avoir de cette levée du regard qui permet de voir au-delà du créé, au-delà de la réalité visible et tangible. Premier point. Deuxième point, le serpent est capable de prendre toutes les formes et il s'insinue de telle manière que il a l'intelligence des formes. Et dans bien des méthodes et bien des techniques intuitives, il y a cette intelligence, vous voyez, d'aller chercher la faille. Et quand le serpent a trouvé la faille et qu'il y met sa tête, il ne peut plus reculer parce qu'un serpent, physiologiquement, ne peut pas faire marche arrière. Deuxième attribut, un serpent est incapable de conversion. Il est incapable de dire, d'une certaine manière, je me suis trompé, je me convertis, je fais marche arrière. Il est incapable, pour employer un terme hébreu, de teshuva, c'est-à-dire de retournement, de conversion. Donc vous voyez, ce deuxième attribut du serpent est très intéressant. Un serpent n'a, et ça aussi c'est très important, un serpent n'a pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille. Il perçoit le monde qu'à travers la vibration du monde. Et il a des... C'est au niveau de son ventre. Son ventre est très sensible à toutes les vibrations. Et c'est ainsi qu'il se conduit. Vous voyez ? Il n'a pas d'oreille, ça veut dire qu'il n'a pas de possibilité de distance, de distanciation. Il n'a pas de possibilité de percevoir ce que peut être l'altérité, c'est-à-dire l'autre. Il ne peut pas percevoir une autre parole que celle des bruits du monde. Est-ce que je suis clair ? Alors, il y avait un magnétiseur. Vous savez, on a pas mal de magnétiseurs, peut-être chez vous aussi, mais dans la Sarthe, l'Orne, la Mayenne, là, c'est pas mal. Oui. Et donc, ce magnétiseur va voir assez souvent un exorciste parce qu'il en a, il est rempli d'énergie négative et il se demande comment se... Bon. Ce magnétiseur disait que quand il va voir, quand il va choisir un melon dans son étal, vous savez, il y va directement et il prend le bon melon. Vous voyez, c'est pratique. Voilà. Intuitivement, il est conduit par son intuition, par sa je ne sais pas comment, vous voyez, de manière quasi animale, il prend le bon melon. La distanciation raisonnable, j'espère que vous faites comme ça, quand vous prenez un melon, vous le soupesez, vous le sentez, vous regardez si la queue fendille un petit peu, etc. Donc, par rapport à cette matière du monde, vous exercez une certaine intelligence, un certain œil clinique. Voilà. Le magnétiseur, lui, il se prend le bon melon à chaque fois. Exactement comme une vache, vous la mettez dans un pré, elle va vous prendre l'herbe qui lui convient. Elle ne réfléchit pas, elle n'a pas cette distanciation. Donc vous voyez, l'aspect vibratoire et intuitif, au lieu de nous entraîner dans une humanité, nous entraîne dans une animalité. Le premier des sens qui nous habite et qui nous montre qu'un autre monde que nous existe, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. Et le bébé dans le ventre de sa maman se rend compte qu'il y a un autre monde que lui-même et que sa maman par l'ouïe. Il va reconnaître les sons de la voix de sa maman, même de son papa. Et puis, vous voyez, il va être dans une relation. En français, c'est très intéressant d'aller à l'étymologie des mots. Le verbe écouter, c'est le verbe ouïr. Et ouïr a donné ce mot qui est si peu à la mode aujourd'hui, obéir. Obéir. Alors la question, c'est de savoir à qui nous obéissons. Est-ce que nous obéissons au bruit du monde ou est-ce que nous obéissons à la parole qui a créé ce monde, la parole de Dieu. Ouïr, obéir. C'est-à-dire rentrer dans une distanciation et une altérité. L'ouïe permet cette distanciation. L'écoute permet à chacun et à chacune d'exister. Et ouïr, la parole de Dieu, c'est rentrer dans une relation avec le tout autre, celui qui ne peut pas être à jamais comme moi, qui respecte mon identité et dont je respecte la parole créatrice et la parole qui me sauve. Saint Paul dira : la foi vient de l'écoute. Le serpent est incapable d'écouter une parole. Il n'écoute que l'énergétique. Et vous savez combien un certain nombre de techniques aujourd'hui sont basées sur l'énergétique. Il faut rétablir les énergies. Hein ? Il faut positiver aussi. C'est la pensée positive, vous voyez ? Il faut essayer de faire tout par soi-même, selon son propre désir, selon sa propre volonté. Et non pas obéir à une parole qui me crée et qui me sauve. Un autre attribut du serpent, parce que vous savez, il y en a quelques-uns comme ça, il a le sang-froid. Hein ? Il a le sang-froid, ça veut dire qu'il est sans émotion. Il peut avoir des intuitions, mais il n'a pas d'émotion. Donc vous voyez, il agit de sang-froid, sans aucune considération de compassion. Le serpent aussi n'a pas de paupières. Il ne peut pas cligner des yeux. Il est en permanence en vigilance. Il n'entre dans aucun repos. Or, vous savez que nous sommes, le monde a été créé pour le Shabbat, c'est-à-dire pour le repos en Dieu. Et dans la nouvelle création avec le Christ, le premier jour de la semaine nous entraîne dans un repos et dans une confiance et dans une action de grâce en Dieu qui nous sauve. Le serpent est incapable, incapable de rentrer dans ce repos en permanence, en vigilance. Tiens, à ce sujet, je voudrais dire un petit mot sur le 6. Vous savez que le mot, on retrouve le 6 dans la culture satanique hein, pour les jeunes avec 666. Hein, voilà. C'est intéressant de voir ce que nous dit saint Irénée à propos du 6 et du 666. Vous savez, le 6, c'est précisément en 6 jours, Dieu crée le monde et crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le fait pour le 7, pour le repos en Dieu. Le 6 qui se répète, qui se répète et qui se répète, ne peut pas rentrer dans ce repos en Dieu. Il est uniquement dans l'univers matériel, dans l'univers du créé. Il ne peut pas accéder à l'infini, à ce repos en Dieu. 666. Vous voyez une petite clé hein, de ce mot que nous donne saint Irénée dans Contre les hérésies. Alors ce serpent, Encore, un autre attribut, c'est qu'au niveau physiologique, il fait des petits œufs, vous savez. Alors, il y a des œufs qui naissent à l'intérieur de lui, enfin bref, ouais. Et puis il y a des œufs qui éclosent une fois qu'ils ont été pondus. Mais ces œufs-là, les petits serpents, hein, les tout petits serpents, se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'apprentissage. C'est une rare espèce où il n'y a pas besoin du papa ou la maman serpent. Ils se débrouillent tout seuls dès le départ. Vous voyez ? Fais ton expérience. Hein ? Tu n'as pas à recevoir d'autre que ta propre expérience. Expérimente, fais l'expérience. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une confiance, dans une tradition. Hein ? Et aujourd'hui, ces techniques et ces méthodes nous disent mais expérimente, vis par toi-même. Alors bien entendu, il faut être guidé, il faut être initié par quelqu'un qui a fait le chemin. Mais c'est à nous-mêmes de faire l'expérience. Et dit, mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas fait l'expérience. Il faut expérimenter et ne pas rentrer dans un processus de filiation. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas fils et filles de notre propre auto-construction, auto-détermination, auto-guérison. Voilà. Un autre attribut du serpent, et ça la Genèse nous le dit, hein, c'est le plus nu de tous les animaux de la création, ou le plus rusé, on peut traduire de deux manières l'hébreu. Le plus nu, ça veut dire que si nous rentrons dans ce regard du serpent, nous rentrons dans ce regard de nudité du monde. Ça vous dit quelque chose avec Internet, cette nudité du monde, là ? Hein ? Vous voyez, nous voyons l'autre que dans sa nudité. Finalement, dans le profit que je peux avoir, dans la jouissance qu'il peut me procurer, dans sa nudité. Et j'en oublie que tout homme est créé à l'image de Dieu et que tout homme est habité par la gloire de Dieu. Si je rentre dans ce regard du serpent, je rentre dans une mécanisation et un profit par rapport à l'autre, je me mets dans un regard de nudité. Ce serpent aussi mange la poussière. Hein ? Il ne se nourrit que de la poussière du monde. Et il ne se nourrit pas de la parole. Il se nourrit uniquement de cette poussière. Alors, vous voyez, ce serpent devient le dragon de la Genèse, qui essaye de manger, enfin d'atteindre le fils de la femme enceinte. Et il est là aux aguets. Quand je vois aujourd'hui, de manière typologique, l'archétype que peut représenter le dragon, de voir qu'il nous est proposé aujourd'hui chez nos jeunes comme l'initiation suprême. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dragon ? Un dragon, vous savez, ça vole, hein ? Ça manie toutes les puissances de l'air, ça crache du feu, ça manie toutes les puissances du feu, ça va sur terre. Ça manie tous les esprits de la terre et ça va dans l'eau. Les quatre éléments. L'initiation suprême, c'est de maîtriser les quatre éléments. Vous avez en ce moment des charters entiers qui vont faire des sessions de chamanisme, hein, où on va être initié par des substances que l'on qualifie aujourd'hui d'entéogènes. Entéogène, entéos, ça veut dire Dieu en soi. Capable de générer Dieu en soi. Et on fait faire des expériences qui permettent d'aller dans le serpent, l'anaconda, dans l'oiseau, dans, vous voyez, dans le guépard, et ainsi de suite, comme étant des initiations suprêmes à l'air, à l'eau, au feu et à la terre. Et on prétend que on fait des expériences spirituelles. Et il y a des gens qui trouvent qu'ils sont guéris à travers cela. Alors, ils sont peut-être guéris en apparence de leur addiction, parfois des drogués, etc. Le sont-ils dans leur âme ? Et la distinction faite par Mgr Santaine ce matin était particulièrement pertinente. Parce que nous ne guérirons jamais. Hein. On est limité. Hein. Je ne sais pas si vous êtes aperçu de ça. Hein. Et on ne guérira qu'au ciel. Et précisément, nos limites sont la grâce pour nous de nous reconnaître humblement, dans l'humilité. C'est dans cette humilité que nous pouvons recevoir la parole. Si nous ne sommes pas cette terre de l'Adama qui reçoit le souffle, la ruach, et que notre souffle ne se transforme pas en action de grâce, alors nous avons loupé le voyage. C'est véritablement aujourd'hui un combat très important que nous devons livrer en tant que chrétiens et dire l'importance du souffle qui nous crée et qui nous recrée. Alors, je voudrais vous dire quelque chose justement encore à propos de cette genèse et du premier jour. Souffle de Dieu planait sur les eaux. Il se trouve que en français encore, on a le mot respirer. Allons à la racine. La racine de respirer, c'est spirare. Et c'est la même racine que esprit. Comme si au cœur de notre corps, cette respiration nous disait quelque chose de l'interface entre la matière et le souffle, ce qu'il y a de plus immatériel. Et de ce qu'il y a encore de plus immatériel, c'est l'incréé du souffle saint. Or, cette respiration est très importante, bien entendu. Dans toutes les traditions, on a repéré combien cette respiration était importante. Dans l'Inde, en Inde, vous avez le prana. Et vous allez essayer, par des exercices respiratoires, de capter les énergies de l'air de manière extrêmement volontariste, par des exercices d'ascèse. Vous avez vu le grand bleu, hein ? Vous avez vu le grand bleu, hein ? Il, par des exercices d'ascèse intenses, il arrive à bloquer son souffle, hein, et arriver à des choses phénoménales. Phénoménales, il ne fait que réveiller des instincts, des réflexes que l'on a à l'état archaïque. Le bébé, quand il va naître, il est capable aussi de faire en sorte que l'oxygène n'atteigne que le cerveau et les parties vitales. Et quand quelqu'un fait du pranayama de manière très intense en bloquant la respiration, il va réveiller aussi ses réflexes qui développent ce que l'on appelle des substances morphiniques, hein, des substances qu'on a endomorphiniques, qu'on a à l'état naturel et qui provoquent des états d'euphorie. Alors attention, un certain nombre d'exercices physiques, psychologiques peuvent induire des climats psychophysiologiques euphorisants, à ne pas confondre avec notre spiritualité, qui est relationnelle. Attention à ce que les exercices que nous provoquons, que ce soit par le yoga, mais que ce soit aussi par la sophrologie, je pourrais en dire deux mots, ne provoquent pas des climats qui nous mettent dans un état un peu de bien-être, mais qui nous étanchéifie à la relation. Le grand bleu, vous voyez, rentre tellement dans son trip qu'il en oublie qu'il y a une journaliste dont il est tombé, qui est tombée amoureuse de lui, qui est enceinte, et il préfère continuer son travail à travers les eaux abyssales. Quelque chose du grand bleu nous dit quelque chose de toute cette tendance du New Age à vouloir être dans la surperformance, mais en oubliant la réalité du présent, de l'ici et du maintenant. Donc attention à toutes ces techniques, d'une certaine manière, qui peuvent nous mettre dans un climat tout à fait de détente, mais qui nous étanchéifieraient de la relation. La respiration. Respirer. Respirer, dans notre tradition judéo-chrétienne, respirer, c'est accueillir un souffle. En français, nous avons donc respiré, nous avons expiré, j'expire, mais je ne peux pas dire je suis expiré. Hein ? Mais vous pouvez dire j'inspire, et vous pouvez dire je suis inspiré. Alors la question, c'est de savoir par qui voulez-vous être inspiré ? Hein ? Qui vous inspire ? Qui vous inspire ? C'est très important, cette question de la respiration, vous savez. La première guérison dans Marc, une vraie guérison, hein ? Vous savez, ça se passe dans une synagogue le jour du Shabbat, le lieu le plus saint, le temps le plus saint. Et il y a un gars qui est là-dedans, hein ? La présence de Jésus, sa parole, révèle qu'il est habité par un souffle impur. Hein ? Esprit impur, mais c'est souffle impur, si on veut à la racine étymologique. Qu'est-ce que c'est que l'impureté du souffle ? C'est un souffle mélangé. Vous voyez ? Il ne sait plus pour qui ni pourquoi il respire. Et d'une certaine manière, notre vie spirituelle doit nous orienter de plus en plus à savoir et à nous déterminer pour qui et pourquoi voulons-nous respirer. Cette respiration est très importante. Elle s'inscrit au cœur de notre être. Le muscle le plus important de cette respiration s'appelle le diaphragme. Vous avez tous entendu parler du diaphragme. Hein ? Aujourd'hui, on dit qu'on ne prend pas le temps de souffler. Hein ? Et c'est vrai. C'est vrai physiologiquement. Hein, on ne prend pas le temps de souffler. Expirer, d'une certaine manière, c'est mourir. On n'a pas du tout envie de mourir. Hein ? Non ? Et on a raison. Mais d'une certaine manière, vous voyez, on accumule. Et en accumulant, on a une position de réserve inspiratoire et on commence à respirer comme ça. Et vous voyez, si je fais ça, ça s'attrape. Hein. Voilà. Alors je vais souffler un petit peu pour reposer. Donc vous voyez, notre respiration aussi est le lieu, bien entendu, le lieu un peu de cette interface entre ce que nous ressentons, hein, ce que nous vivons, les climats dans lesquels nous sommes. Le diaphragme, en langage médical, s'appelle aussi le centre phrénique. Tiens, phrène en grec veut dire état d'âme, humeur, état d'esprit. Comme quoi nos anciens avaient bien repéré, vous voyez qu'au cœur même de notre cœur, quelque chose se joue de très essentiel avec cette respiration. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée et qui m'a profondément bouleversée. Je voyais une dame au cabinet de kinésithérapie et voilà, qu'elle ne pouvait plus respirer avec son ventre. Elle était complètement bloquée. Alors ça lui entraînait des tensions, des choses comme ça. Et je lui ai donné simplement cette image. Vous voyez le diaphragme ? C'est comme un oiseau, hein ? J'ai des diapos, mais ce serait trop compliqué de les mettre là. C'est comme un oiseau. Hein, vous voyez, ça a deux hémicoupoles, un diaphragme. Hein, et le bassin, c'est un nid, le bassin. Hein, et je lui dis cette image-là. Et contre toute attente, cette dame se met à pleurer des larmes comme jamais j'avais vu pleurer. C'était comme une source qui... Alors j'étais respectueux, je me demandais ce qui advenait. Au bout de ses larmes, elle me dit « À 17 ans, j'ai avorté. » Et là, j'ai été saisi par le parallèle avec « Et souffle de Dieu planait sur les eaux. » Les Hébreux sont toujours très concrets et ce mot de planer en hébreu c'est « raef ». Et Raef, c'est exactement ce que fait l'oiseau au-dessus de son nid. Et je me suis dit, ce jour-là, j'étais estomaqué, éberlué de voir combien cette parole est incarnée dans notre chair de manière inimaginable et gratuite. Et gratuite. Je me demandais, après cette dame a été mieux, et puis vous savez, on ne sait pas hein, après ce, qui de, ce que les personnes deviennent. En janvier de l'année d'après, elle m'envoie une petite carte de vœux. C'était une cigogne qui transportait un bébé. Voilà. On ne sait pas toujours hein, ce qui advient. Et puis, vous savez, on n'est jamais propriétaire hein, de la relation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Et quand Mgr Santaine rappelait tout à l'heure, ce matin, la phrase, la belle phrase d'Ambroise Paré, qui dit... Les médecins soignent. Il a dit aussi, je le pense, de pansement, hein, mais c'est Dieu qui guérit. Vous voyez, nous n'avons pas la main, nous n'avons pas la main. Aucun thérapeute, aucun pédagogue, aucun accompagnateur spirituel ne peut avoir la main sur ce qui advient et sur ce mystère de la personne. Et surtout pas, surtout pas, surtout pas, de l'induire ou d'être intrusif, vous voyez, de l'induire par des questions qui peuvent parfois être extrêmement, qui quelque part ces questions peuvent être un regard de nudité, vous voyez, de ne pas respecter l'intimité et le mystère de la personne. Attention à ce que les questions ne soient pas non plus ni intrusives ni inductives. C'est une des bases, me semble-t-il, et de l'accompagnement spirituel, et de la relation pédagogique, et de la relation thérapeutique. Voilà. Alors, vous voyez, donc ces questions de souffle sont si importantes. Hein, mais de bien les poser au bon endroit. Un certain nombre de techniques, un certain nombre de méthodes dérapent à cet endroit-là et prétendent guérir tout l'être. Le nombre de sessions qui prétendent guérir tous les aspects de la personne, psychologique, physique et spirituelle, aujourd'hui sont très très nombreuses. Ça peut toucher aussi nos propres communautés chrétiennes. Nous pouvons aussi avoir le désir de nous débarrasser immédiatement, dans le tout, tout de suite, de ce qui nous pèse, de ce qui nous dérange. Et c'est aussi un critère de discernement au niveau thérapeutique. Ce n'est pas parce qu'il y a la disparition d'un symptôme de manière immédiate que nous sommes guéris. Vous voyez ? Tel ou tel thérapeute fait des miracles. Attention, attention au miracle, hein. Attention à l'instantanéité du miracle. Hein. On va chez tel thérapeute et tout de suite, hein, les difficultés qu'on pouvait avoir sont supprimées. Il peut y avoir un enfouissement du symptôme d'appel. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez mal à la tête, vous allez voir tel thérapeute, c'est instantanément guéri, de manière quasi magique. Vous voyez ? Attention, il n'y a pas de magie, vous voyez, et souvent on dit dans ces cas-là, il m'a guéri, il m'a guéri. Le rôle d'un pédagogue, d'un accompagnateur spirituel ou d'un thérapeute, c'est d'accompagner la personne pour que progressivement elle soit active, actrice de ce qui lui arrive. C'est un long cheminement et un apprentissage. Or, c'est aussi une question très profonde. J'ai le cas d'une dame dont le fils, vous voyez, avait des problèmes de dyslexie. Après avoir été à droite et à gauche, après avoir consulté médecin, etc., son enfant avait toujours des problèmes de dyslexie. Alors, elle a été consultée une kinésiologue qui était recommandée dans le cadre de sa paroisse. Et très rapidement, cette kinésiologue, après avoir écarté la maman et sans avoir interrogé en quoi que ce soit ce garçon, a révélé que s'il avait ces difficultés de dyslexie, c'est parce que les parents avaient déménagé quand il avait 7 ans et que ça l'avait traumatisé. Très rapidement. Alors cette maman a été subjuguée par ces techniques-là et a commencé elle-même à vouloir devenir kinésiologue. Vous voyez comment ça peut s'attraper, ce genre de choses. Ça s'attrape par quelque chose qui séduit, quelque chose qui fascine, quelque chose qui est miraculeux immédiatement. Et bien des gens sont comme touchés par cette immédiateté. Aujourd'hui, il faut que tout soit rapide, tout de suite. Vous voyez, hein, il faut guérir tout de suite et instantanément. Et donc, on a tel thérapeute, allez-y, vous allez voir. Et ça guérit instantanément en ne prenant pas suffisamment en compte l'épaisseur du temps. Tout, quand vous apprenez à lire, quand vous apprenez à écrire, ça prend du temps. Ça demande une patience parfois très grande, hein, pour les enseignants qui apprennent aux petits à... Voilà. Vous voyez, on passe par des médiations qui prennent du temps, pas des instantanéités. Une autre personne qui faisait de l'ostéopathie et qui était médecin, gynécologue, a vu que la kinésithérapeute ostéopathe qui avait guéri son enfant, eh bien, était de plus en plus rapide dans la détermination de ce qu'il pouvait y avoir comme symptômes et comme lésions chez certaines femmes. Elle a été tellement séduite par ça qu'elle est rentrée dans ce regard et a développé progressivement des capacités intuitives et médiumniques. Des capacités qui de plus en plus prenaient d'importance. Elle était capable de percevoir les sources. Elle était capable de percevoir ce qui pouvait y avoir de difficultés dans telle ou telle personne, de manière quasi instinctive. Mais en même temps, elle déshabitait son quotidien. Elle déshabitait sa relation à son mari, à ses enfants, à son entourage, et devenait comme une personne ayant des pouvoirs. Avoir des pouvoirs, c'est jamais bon, hein, vous savez. Et puis, il y a aussi quelque chose de si important. Vous voyez, c'est quasi automatique. Vous allez chez certaines personnes, quasi automatiquement, ça passe. Hein ? Quasi automatiquement. Eh bien non, il y a quelque chose qui, là, nous débranche de notre responsabilité et de notre raison. Voilà. Nous sommes faits, Monseigneur Santaine l'a répété aussi ce matin, pour être libre et non pas être dépendant de tel ou tel pouvoir, de telle ou telle initiation, de telle ou telle chose secrète qui, si elle était révélée, perdrait son pouvoir. La prière chrétienne n'a rien de secret. Toutes les prières sont écrites, vous pouvez les lire. Tout ce qui agit dans le secret agit dans l'occulte. Tout ce qui agit dans l'occulte est au service du serpent, d'une certaine manière. Voilà, peut-être que je suis un peu lapidaire, mais je crois que c'est très important que d'avoir ces quelques critères de discernement. Je regarde ma montre, peut-être que le temps est écoulé, non ? Alors, je vais quand même terminer par quelque chose de beau, hein, si vous voulez. Hein, parce que quand même, hein, vous savez qu'il y a une bonne nouvelle, hein, quand même. Hein, la bonne nouvelle, vous savez ce que c'est la bonne nouvelle, hein, c'est que dès la Genèse, il nous est dit que la femme écrasait la tête du serpent. Ah ! Alors voilà. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Hein, cette femme écrase la tête du serpent. J'ai un ami qui, quand ça va pas bien, il se tourne vers Marie et lui dit « Mais pète-lui la gueule !» Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein. Mais alors, attendez. Parce que la bonne nouvelle aussi, nous est... Alors, vous voyez aussi, il y a un changement d'archétype. Dans notre tradition chrétienne... Attendez. Hein ? Alors, ici, on est... il y a que des Bretons, hein, mais vous savez, il y a le Mont-Saint-Michel. Non, il n'y a pas que des Bretons. Alors, mais il y a le Mont-Saint-Michel. Hein. Le Mont-Saint-Michel. Vous voyez le Mont-Saint-Michel ? Hein ? Vous voyez Saint-Michel, ce qu'il fait au dragon ? Hein ? Voilà. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Hein. Mais vous voyez les inversions d'archétypes qu'il y a aujourd'hui. Le dragon, les sorcières, les trucs et les machins sont des gens fréquentables. Dans les contes de notre enfance, le prince charmant pétait la gueule au dragon, hein, pour aller rejoindre la princesse, vous voyez. On a changé nos archétypes. Hein. Saint-Georges, Sainte-Marguerite, écrase le dragon. Ne le tue pas, mais le maîtrise. Nous ne pouvons pas nous confondre avec cette matière du monde. Nous sommes faits pour celui qui, par sa parole, a créé ce monde et qui nous invite à rendre grâce pour lui et avec lui. Alors, un dernier point, parce qu'on termine souvent par Marie, hein, vous savez. Hein, hein, avant, voilà. Regardez le Magnificat. Qu'est le magnifique chant de Marie, le Magnificat. Mon âme, ma gorge, hein, en hébreu, nefesh, exalte le Seigneur. Ma gorge, le lieu du passage, de l'air, de la nourriture et de la parole. Mon âme, mais pas une âme, vous voyez, une âme incarnée, hein, concrète. Mon âme exalte le Seigneur. Et la deuxième phrase, c'est « Et mon esprit ». Mais attention, esprit, c'est spiritus, c'est pneuma, c'est ruach. Marie, dans sa deuxième phrase, dit « Et mon souffle, ce rythme, en Dieu, mon sauveur. » Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une instrumentalisation. Marie nous aide et nous dit de respirer comme elle respire, pour rendre grâce à Dieu.
Bon, merci beaucoup Bertrand, c'était très très intéressant. Je pense que ça a répondu à vos questions. Très bien. Attends, une question là.